Fred Savard avec vous pour ce 27e épisode de La Balado. Épisode qui va être kaléidoscopique, est-ce que je peux dire ça? Ou une macédoine, en fait, de plusieurs segments. On va parler avec Maxime Laprise, doctorant en histoire médiévale, qui va venir justement nous expliquer pourquoi c'est encore pertinent d'étudier cette époque-là, même dans un endroit comme le Québec, qui a l'impression qu'il ne se passait pas grand-chose au Moyen-Âge. Mais Maxime Laprise va nous dire « c'est pas vrai ». On va parler aussi, on va faire de la mobilisation de connaissances avec un projet de recherche en criminologie à l'Université de Montréal, avec entre autres les chercheurs Rémi Boivin et Pierre Noreau, sur l'utilisation des caméras portatives, non pas caméras corporelles, chez les corps policiers. De toute façon, je vais vous reparler de ce segment-là pour vous l'expliquer en début de segment. On va aussi aller découvrir avec Nicolas Gigal un nouveau numéro de Lettres québécoises sur la chanson au Québec. Mais on va commencer avec le retour d'Hélène Faradji. Bonne écoute, tout le monde. Vous voyez, c'est ça. Là, on filme pour des extraits et je n'avais pas parti ma console, Hélène Faradji.
Je vais commencer par vous dire que je vais très bien, mais je suis obligée de le dire un petit peu en chuchotant parce que je ne veux pas que YouTube se fâche et retire ce qui est devenu ma nouvelle obsession. Parce qu'il y a un petit génie qui a déposé dans les dernières semaines une émission que j'adorais quand je vivais en France, c'est-à-dire il y a des lunes, et qui s'appelle le Zapping de Canal+.
Ah, je ne connais pas.
C'est un programme qui a formé mon regard télévisuel sans aucun doute. Ça a été diffusé entre 89 et 2016. Quand même, de façon hebdomadaire, plus un best-of de fin d'année. Et l'idée, elle est simplissime, concentrer dans une seule émission le meilleur, ou en tout cas le plus marquant, de ce qui se passait à la télé, sans aucun commentaire.
Ah, c'est ce qu'on appelait du Scratch TV.
Oui, bah là, ça
à l'époque, il y avait une mode, on faisait ça à la maison, on enregistrait plein de petits bouts sur une VHS, puis on l'écoutait au bout de plusieurs semaines.
Bah, en France, où il y a plus d'argent, ils en ont fait une émission.
Et là, attends, donc je comprends bien, ça vient d'être déposé sur YouTube.
Chut, faut pas le dire trop fort, sinon YouTube se fâche et enlève tout ça, il faudrait pas. Donc, c'est une succession de séquences qui donne à voir les grands soubresauts du monde, les moments de grande débilité aussi, les moments d'émotion, animaliers, culturels, politiques, bon, tout ce qui constitue notre imaginaire, et je me suis gavée ces derniers jours. Wow. En particulier des best qui sont entre 1 heure et 2 heures. Donc, c'était à la fin de l'année.
Hey, ça, c'est sûr que je vais écouter ça en cuisinant.
Depuis 89 jusqu'à 2016, c'est extraordinaire. Wow. Et j'ai fait plusieurs constats. Bon, d'abord, que la télé, qu'on le veuille ou non, elle a été prescriptrice de tout ce que les générations pré-Y ont pensé. Et je comprends
Dans pré-numérique.
Exactement. Ouais. Et je comprends très bien maintenant pourquoi la télé est en panique à l'idée de laisser le contrôle à Internet.
Ben oui.
Ensuite, deuxième constat, on ne parle pas en général assez de l'importance du montage.
Ah, ouais, oui,
dans
ça, c'est vrai.
Tout ce qu'on voit, parce que l'équipe du Zapping ne se contentait pas d'assembler les séquences, l'ordre dans lequel elles sont montées raconte aussi quelque chose.
Donc, il y a une narration dans le montage.
Il y a une narration, bien sûr. Ce que j'ai aussi constaté, c'est que le nombre de personnes qui ont été cancel depuis est hallucinant. Hallucinant.
Donc, il y a une plongée anthropologique.
À chaque séquence, vous avez un malaise en vous disant « Oh tiens, Patrick Poivre d'Arvor. Oh tiens, Gérard Depardieu. Oh tiens, Gérard Miller. » Enfin bref, ils défilent tous comme si tout était normal, tout de l'été à l'époque, mais plus aujourd'hui, heureusement. Mais mon principal constat, c'est que l'histoire n'avance pas. Comme on se le fait croire en parlant de progrès, elle fait du surplace. Elle se répète inlassablement. C'est hallucinant de revoir ces best-of des années 90, 2000 et de constater qu'à part la qualité technique, évidemment, c'est exactement la même chose qu'aujourd'hui. Les éditions spéciales quand une guerre arrive, à l'époque c'était le Kosovo, la Tchétchénie, les agriculteurs en colère, la disparité économique grandissante, les dangers des changements climatiques et ces visionnements, ça m'a à la fois mis en colère et découragé. Parce qu'on savait, Fred, on savait tout ce qui arrive aujourd'hui. On était au courant, la télé nous le disait jour après jour, et comme des vaches, on a regardé le train passer en se disant « Oh, bah, ça fait des belles séquences fortes à regarder à la télé. »
Ah ouais, c'était vrai. En même temps, ça veut peut-être dire aussi que la télé n'est pas un médium pour mobiliser.
Ah bah visiblement non, parce que
tout devient objet de spectacle sans dépasser ça. Ouais.
Exactement. En fait, on a regardé le monde se fissurer sans rien faire et aujourd'hui, on a l'air de s'étonner de revivre exactement la même chose qu'on vivait il y a déjà 20 ou 30 ans. Ce préambule, pour vous parler en réalité d'autre chose qui m'a frappée, c'est notre fascination collective pour tout ce qui brille et scintille, et notre indifférence généralisée pour tout ce qui fait mal et ne correspond pas à cette espèce d'idéal qu'on s'est socialement imposé, c'est-à-dire être riche.
Ça
résonne encore très fort aujourd'hui et j'en ai la preuve. Est apparue sur Crave au cours des dernières semaines une nouvelle série, signée Pierre-Marc Drouin et Pascal Renaud-Hébert, avec Jean-Philippe Barry-Guerrard aussi pour les aider au scénario, qui met en scène quatre enfants, donc deux frères, deux sœurs, adultes, et une inconnue très très enceinte, qui vont s'entre-déchirer pour avoir accès à l'héritage du père. Héritage de 84 millions de dollars, ce qui est pas
même,
mal.
C'est beaucoup.
C'est quand même pas mal.
Et que 8 millions,
c'était suffi. Déjà bien. Mais non, là, c'est
4 ans. C'est un gros montant.
C'est un gros montant. Ben... C'est drôle parce que j'en ai parlé à Tout peut arriver aussi et, et certains trouvaient que c'était pas assez. 84 millions. Ça me faisait rire.
C'est l'inflation, je veux bien.
Oui, mais... non, mais ça, 84, moi, pas de problème. Mais le problème, c'est que pour y avoir accès, ils vont devoir participer à des épreuves odieuses imaginées par le père avant qu'il meure. Et tout ça est expliqué de façon limpide dans la bande-annonce.
Merci d'être réunis pour la lecture du testament de Paul-Émile de Léry. Les 84 millions sont sur la table, mais si vous désirez les obtenir, vous allez devoir prendre part à un jeu, une série d'épreuves pour être exact. Tous ceux qui réussiront à traverser les 6 épreuves pourront se partager les 84 millions. Vous avez une heure pour décider si vous participez ou non.
D'après vous, vont-ils participer? Et je vous parlerai pas tant de la série, parce que bon, elle a ses mérites, elle a ses ombres, un peu trop pesantes pour que la comparaison soit flatteuse, c'est-à-dire Succession, Squid Game.
Mais
je voudrais surtout vous parler de cette apparition relativement récente sur nos plateformes d'œuvres qui se concentrent sur le monde des ultra-riches. In Memoriam, évidemment, qui a d'ailleurs été tourné dans le manoir de Céline Dion. Oh oui, enfin l'ancien manoir, celui qu'elle a vendu.
Ça fait rêver.
Oui, c'est ça exactement. C'est très beau, très très beau. Donc In Memoriam, mais aussi Succession, White Lotus, avant le crash ou au cinéma, Triangle of Sadness, la Palme d'Or de Ruben Östlund, Parasite, la Palme d'Or de Bong Joon-ho, Knives Out ou encore Killers of the Flower Moon de Scorsese qui lui s'intéresse à la course pour le devenir ultra riche. Et avec l'apparition d'In Memoriam, une première hypothèse a germé dans ma tête de personnes pas vraiment riches. Je le précise parce que si j'étais ultra riche, je m'en foutrais complètement.
C'est vrai.
Cette hypothèse, c'est que la pandémie a aggravé quelque chose qui était en germe pré-2020 et donc que les cinéastes les plus malins avaient anticipé, c'est-à-dire une prise de conscience aiguë du privilège.
Ouais.
Qui l'a ? Qui en profite ? Qui est laissé sur le bas-côté ? Et forcément, cette prise de conscience qui est marquée par l'apparition dans nos vocabulaires du mot « privilège » et de son corollaire « woke », parce que de quoi on est woke ? De quoi, à quoi on est éveillé, si ce n'est à l'injustice de constater que l'égalité, c'est un beau concept dans les livres et dans les discours, mais que dans les faits, c'est souvent une théorie. Bon, cette notion du privilège, forcément, elle a infusé les esprits créatifs, elle les a poussés vers des séries et des films qui désinguent l'univers des ultra-riches en montrant que, bien sûr, l'argent ne fait pas le bonheur, mais surtout, l'argent rend fou, cruel ou malheureux.
Donc, il y a une critique quand même.
Une critique,
bien
sûr.
Il n'y a pas juste un désir bourgeois d'accéder à ce cercle-là.
Non, c'est plutôt pour montrer comment l'ultra-richesse finit par pervertir les esprits. Et je l'ai dit, c'était juste une hypothèse, parce qu'avec cet alignement d'œuvres ultra-critiques du 1%, je me suis demandé, est-ce qu'on assiste à l'éveil d'une nouvelle génération de scénaristes révolutionnaires, voire même socialistes.
Permettez-moi d'en douter.
J'ai fait patate, assez rapidement. Parce que j'avais beau essayer de pousser le raisonnement, et il ne fonctionne pas. La révolution, ça implique de vouloir détruire un monde. Et toutes ces séries, elles montrent bien sûr qu'être riche, ce n'est pas enviable, mais elles ne remettent jamais en question le principe de l'ultra-richesse.
C'est ça.
Elles cherchent jamais à en saper les fondations.
C'est dur de remettre en question le système
Exactement.
Économique. On n'est jamais capable.
Elles acceptent toutes ces œuvres-là, que les ultra-riches, fussent-ils ultra-méchants, ils existent, ils sont une donnée de notre monde. Et contrairement à ce que voudraient nous faire croire les politiques libérales, ce n'est pas un rêve, pas un idéal à atteindre. Mais ces séries, ces films continuent à être fascinés
C'est ça.
Et c'est ce que fait le luxe. Ouais. Ça fascine. Ouais, ouais. Ça jette un voile sur la réalité et on continue à rêver en se disant que porter une Rolex au poignet, c'est quand même vachement bien.
Et peut-être que je ferais mieux, moi.
Probablement. Et que même si vous avez à vendre votre père, votre mère et tout ce qui vous tient à cœur pour l'avoir...
J'ai une Rolex.
Voilà, exactement. C'est pas un si grand sacrifice, au fond. Et c'est là que je reviens à cette
idée...
C'est
vrai que ma mère écoute parfois. Oh.
Bonjour.
J'ai pas de Rolex. J'ai une Tissot seulement.
Oh bon, ça va. Et donc, je reviens à cette idée d'indifférence qui m'a prise à la gorge quand je regardais le zapping de Canal+.
Ah ouais.
On regarde, on juge et on laisse faire. Et pire même, c'est que ceux qui essayent de réinventer les bases, ceux qui remettent en question l'ordre établi, ceux qui cherchent à être révolutionnaires, eh ben on les ignore.
Ouais.
Parce que, vous voyez, je vais mettre à ma main à couper que l'attention médiatique dont a bénéficié In Memoriam sera 100 000 fois, voire 1 million de fois moins importante que celle qu'on porte aujourd'hui à la sortie du dernier film de Ken Loach,
ah.
The Old Oak.
Oui.
Une merveille d'humanité, d'ouverture, qui prend comme point de départ l'arrivée de migrants syriens dans un petit village anglais ravagé par la fermeture d'une mine quelques années plus tôt.
Ça ressemble à Ken Loach.
On écoute la BA.
It's not charity. This is solidarity. This is a boat. We'll do something together.
It takes strength to build something new. It takes strength to build something beautiful.
Shukran. Do you know what shukran means? It means thank you.
Shukran.
Shukran.
Ouais, une rencontre improbable donc entre le tenancier d'un pub et une jeune fille syrienne. Et Ken Loach, au-delà du fait que tout son cinéma devrait être classé au patrimoine mondial de l'humanité, parce qu'il se bat inlassablement pour montrer que ceux qui sont fascinés par le monde des ultra-riches ignorent, c'est-à-dire, enfin, en gros, il nous parle des ultra-pauvres. Et dans ce film, il s'intéresse en particulier au nœud qui est causé par l'immigration, c'est-à-dire les aides reçues par ceux qui arrivent, qui sont en situation de détresse, bien sûr, versus le sentiment de déclassement, d'oubli qui est vécu par les nationaux qui, eux, pensent que la société les a laissés tomber. Et plutôt que de s'en prendre aux structures sociales, eh ben, ils s'en prennent à ce qu'ils ont sous les yeux, c'est-à-dire les migrants,
voilà.
Tout simplement. Et le sujet du film, évidemment, ce n'est pas directement les ravages du capitalisme, qui de toute façon a été le sujet d'à peu près tous les films de Ken Loach, mais The Old Oak inverse ce que les séries sur les ultra-riches font. C'est-à-dire qu'ils laissent hors champ l'univers du luxe, ils se concentrent sur ceux qui en sont exclus, mais ils montrent aussi que dans cet espace où vivent les laissés pour compte, c'est la même logique libérale. Hein, on est toujours le pauvre de quelqu'un qui est plus privilégié que nous. Mais surtout, à la grande différence des séries sur les ultra-riches, Ken Loach, lui, il est révolutionnaire. Il remet en cause cet état de fait en proposant autre chose, un autre monde, bon, qui est sûrement utopique, hein, mais peu importe.
Oui.
Dans ce monde-là, les questions de la disparité, de l'inégalité, elles se règlent à grands coups de générosité, d'accueil, d'ouverture à l'autre. Et oui, c'est susceptible de changer le monde. On a beau trouver ça quétaine, angélique, simpliste, c'est des valeurs simples, oubliées pour la plupart
du temps.
Mais qui peuvent enrayer le cours de l'histoire. Ceci dit...
Hélène, j'ouvre une parenthèse, il y a quel âge Ken Loach?
Ben, c'est ce que j'allais vous dire.
Ah bon, ok.
Oh, c'est comme si vous lisiez mes chroniques.
On dirait que je commence à vous connaître.
Parce que oui, toutes ces constatations, elles me dépriment un peu. The Old Oak, c'est le dernier film de Ken Loach.
Ah ouais?
Il l'a dit.
Ah, oh.
Sa santé décline. Il n'a plus forcément le tonus qu'il faut pour mener à bien un tournage.
Ouais.
Il a 87 ans.
Ah, il y a
ouais. Et quand Ken Loach va...
Fait que Denis Arcand, là, c'est pas une avenue inéluctable quand on est en vieux cinéaste.
Peut... Non,
je sais qu'on l'a déjà dit, mais il faut quand même le répéter.
Oui, puis il a juste 80 ans, Denis Arcand.
C'est ça.
À 87, ouais. Peut-être ça revient, je ne sais pas. Il y a peut-être un retour de balancier. Je ne sais pas. Mais ah, oui, il a 87 ans. Et quand Ken Loach va disparaître... Qui va rester pour nous montrer l'autre côté de la médaille? Qui va délaisser la fascination pour la richesse? Qui va se préoccuper de ceux et celles qui ne savent même pas comment ils vont payer leur loyer à la fin du mois? Qui va oser artistiquement faire la révolution? Et quand les ultra-riches auront pris toute la place, parce que vous le savez, comme moi, Fred, il n'y a rien de plus suiveur que les décideurs culturels. Et quand quelque chose fonctionne, on le répète ad nauseum. Donc, attendez-vous à en voir beaucoup. Et bien, quand ça arrivera, on chantera tous en chœur ça.
L'argent ne fait pas le bonheur. Celui qui a
Ah mon Dieu, ça fait longtemps que je n'avais pas entendu ça. C'est qui vieux. Chante ça déjà?
Les Demoiselles de Paris ou
voilà.
quelque chose
comme ça. Voilà, je pense qu'il y a une version yéyé québécoise.
Ouais, je pense que oui.
Hey, merci Hélène. Merci Fred. Belle réflexion, vraiment. Hey, je veux juste, avant de vous laisser aller, pour aller terminer la programmation
oui,
de votre festival, j'ai reçu quelques messages sur la dureté de vos propos à vous et Thomas Carrier-Lafleur sur Dune 2.
C'est... Non, ça,
ça,
c'est...
Restons dans les ultra-riches.
Oui, c'est ça,
le
exactement. Film de ouais, c'est... D'abord, c'était pas dur. Je pense qu'on a été quand même assez ouverts tous les deux à reconnaître
oui,
les qualités artistiques
fait.
De ce film-là.
Moi, je pense que Thomas était plus dur que vous.
Probablement. Ouais. Thomas est toujours plus dur que moi.
Mais
surtout, ce que je voudrais dire, c'est que, un, ça a empêché personne d'aller voir le film.
Ben non.
Un, regarder les résultats qui sont spectaculaires.
Voilà. Oui.
Mais surtout, deux, il ne faut jamais oublier que c'est ce qui fait vivre les films.
Oui.
Au-delà de leur logique commerciale, c'est la discussion qu'on a autour des films. Puis tant mieux si les gens ont eu envie de discuter puis de défendre le film après ce qu'on a dit,
oui.
parce que c'est ça qui fait vivre les films comme des objets au-delà de leur valeur commerciale.
Voilà. Et rappelez-vous, vous avez fait une chronique là-dessus
oui.
sur ce critique qui décidait d'arrêter mmh. parce que c'était rendu trop difficile avec entre autres les fans
les
de l'univers
Marvel.
Marvel. On n'est pas loin là dans le côté culte
exactement.
Des adorateurs de l'univers de Dune.
C'est normal, je comprends que quand on a un film qui nous tient à cœur puis qu'on ouais. aime du plus profond de son cœur, on se sent attaqué presque personnellement quand quelqu'un ouais. l'aime pas. Et c'est formidable de vouloir le défendre.
Ouais.
Moi, je trouve ça extraordinaire. Puis je veux pas dire tant mieux si les gens ont été
non,
choqués,
non, non,
mais presque.
Écrivez-nous.
Non, mais presque, parce que c'est la discussion,
ben oui.
c'est l'échange d'idées, c'est le partage
voilà.
autour des films.
Ouais.
Puis on n'est pas obligé d'être toujours d'accord sur les films.
Ouais.
C'est ça qui les fait vivre. C'est ça qui
tout
en fait quelque chose qui perdure dans le temps.
Et
donc, tant mieux si on n'a pas aimé
ouais.
l'une et que vous l'avez aimé.
Puis moi, j'attends que le troisième sorte pour y aller une première fois. Je parle encore. Je suis encore pris sur la version de David Lynch. Hey, merci.
Merci.
Alors, petite mise en contexte pour le prochain segment. Vous savez, je vous en parle depuis quelques semaines, j'ai un des modèles d'affaires que je développe pour le financement de ce projet. C'est des partenariats avec des chaires de recherche pour que la balado devienne un outil de mobilisation des connaissances de ce qui se fait en recherche dans l'université québécoise et même francophone hors Québec. Et ce prochain segment, c'en est un, donc, de ces partenariats avec... l'École de criminologie de l'Université de Montréal, plus précisément le chercheur Rémi Boivin, qui est professeur titulaire, mais qui est aussi donc chercheur régulier au Centre international de criminologie comparée, et Pierre Noreau, professeur à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, chercheur au Centre de recherche en droit public, président de l'Institut québécois de réforme du droit et de la justice. Et ces deux personnes vont venir nous présenter leurs travaux de recherche sur l'utilisation des caméras portatives par... les différents corps policiers au Québec et aussi par rapport à la littérature qui existe dans d'autres corps policiers à l'extérieur du Québec, parce que vous allez voir, c'est pas vraiment, c'est très peu utilisé pour l'instant, mais ça reste dans le débat public et c'est la recherche qu'on va vous partager témoigne des réflexions sur le fait de pour les policiers de les porter. Le taux d'acceptation chez les policiers, dans la population, chez les citoyens, pourquoi ça varie. Alors, c'est vraiment des projets de recherche pour orienter les élus et le juridique pour éventuellement voir si on les installe ou non. Alors, vous allez voir, c'est quand même un état des lieux qui n'est pas exhaustif, mais qui donne une idée et qui peut-être casse aussi certaines idées préconçues. On n'est pas dans le débat à savoir si c'est bien ou non de les porter, mais l'idée, c'est pas aussi de dire que c'est bien de les porter, c'est vraiment, si on décide de le faire, c'est quoi les enjeux au niveau éthique, au niveau pratique, au niveau juridique. Alors voilà, l'épisode est enregistré il y a quelques mois. J'avais moi ma petite enregistreuse avec moi qui... parfois, est imprévisible. Il va falloir que je m'y plonge. Je ne sais pas si c'est un défaut technique, mais vous allez voir, le son n'est pas le même qu'habituellement dans les luxueux studios de la balado. Alors voilà, soyez indulgents. Ça sonne pas si mal, mais c'est pas optimal. Et comme je suis un passionné d'excellence, ben ça me gosse. Mais sinon, le contenu est là et c'est intéressant. Alors voilà, on se transporte donc à l'École de criminologie de l'Université de Montréal avec les chercheurs Rémi Boivin et Pierre Noreau. Sur le plan de la recherche, qu'est-ce qui est intéressant pour des universitaires comme vous, parler des caméras portatives chez les policiers?
Moi, je le présente toujours comme c'est le petit oiseau dans la pièce là, pendant une interaction policière, parce que généralement, c'est un policier avec un citoyen. T'sais, on a les versions de chacun. Ça va bien quand ils s'entendent sur ce qui s'est passé, mais quand ils s'entendent pas, on le sait pas. Donc là, la cour tranche généralement, pas toujours, mais généralement en faveur du policier. Donc la version du policier est la plus crédible, donc est celle qui est acceptée. Ce qui est intéressant avec les caméras, c'est que là, on a un enregistrement de l'interaction. Là, on comprend que, OK, ben, ce qui s'est passé, c'est pas tout à fait ce que le citoyen a perçu, pas tout à fait ce que le policier a perçu, a compris. C'est un peu des deux. Puis là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des biais. Donc, systématiquement, les gens vont plus ou moins insister sur certains aspects. Donc, c'est vraiment l'intérêt premier. Donc, c'est vraiment d'avoir un enregistrement d'une interaction qu'on n'aurait pas eu autrement. On aurait juste su, ben, le policier dit qu'il a fait feu trois fois.
En fait, ça ajoute une troisième personne, entre guillemets.
Pierre, oui, en fait, c'était la recherche, ça permet d'objectiver plus ou moins les processus qui sont étudiés, dans ce cas-ci particulièrement, parce que l'Institut québécois de réforme du droit de la justice, qui a été mandaté pour travailler là-dessus, puis c'est comme ça qu'on a eu la chance de travailler avec l'équipe de Rémi Boivin, a été mandaté par le ministère de la Sécurité publique, qui songeait implanter ces caméras-là et qui se demandait quels étaient les effets réels de cette implantation-là sous beaucoup d'aspects différents. Dans notre cas, c'était surtout sur la question de l'acceptabilité sociale, puis sur le fait qu'en fait, l'intervention policière, c'est toujours une intervention qui, dans le fond, est fondée sur une relation sociale. La relation entre le policier et le citoyen. Et du point de vue de la recherche, étudier la relation sociale, c'est du point de vue sociologique, là, c'est ce qui est le
c'est
plus
riche.
Intéressant parce que on passe notre vie à créer de ces relations-là. Et puis, ces relations-là peuvent se structurer avec le temps, se construire sur des rituels plus ou moins établis. Le fait d'avoir une intervention entre le policier et le citoyen, une caméra, est susceptible de modifier la nature de leur relation. Et c'est une des choses qu'on voulait observer et que le ministère de la Sécurité publique aussi était intéressé à connaître. Le ministère...
Parce que c'est une relation aussi asymétrique, il faut quand même le dire. Hein?
Oui, et le ministère lui-même, ça recrée en fait potentiellement une forme d'égalité à cause de la transparence que ça impose. Et le ministère, il était intéressé vraiment sur cet aspect-là aussi de la transparence. Ça a été le thème central des travaux qu'eux-mêmes ont menés aussi de leur côté là-dessus.
Est-ce qu'on est un peu en retard au Québec par rapport à l'utilisation des caméras?
Il y a une question de technologie, là, donc la caméra ne pesait pas 10 kilos.
Ouais, ouais.
Donc c'est déjà ça. À partir de 2005, les modèles étaient comme respectables.
Ouais.
Essentiellement, les caractéristiques des caméras en 2005 puis en 2023 sont similaires. Ce qu'il faut se demander, c'est OK, comme la technologie existe, on a nécessairement besoin de l'utiliser.
Ouais. Parlons de l'acceptabilité sociale. Elle est à deux niveaux. Il y a auprès de la population et au sein des corps policiers. Qu'est-ce qu'on peut dire?
Il y a une certaine acceptabilité sociale à l'idée, en ce cas, de l'usage des caméras. C'est assez largement appuyé par la population. Ça questionne tout de même, là, parce qu'il faut quand même voir qu'une caméra, lorsqu'elle fonctionne, qu'est-ce qu'elle filme? C'est la personne qui est en face.
Oui. Hein?
Et donc déjà, cette question-là se posait. Une des raisons pour lesquelles il y a eu une forme d'appui, je crois, à l'idée de la caméra portable, c'est que les gens ont le souvenir des images qui ont été prises dans des contextes d'intervention, je dirais, musclés de la police, notamment aux États-Unis.
Ouais, qui ont été très médiatisés.
Oui, qui donnaient à ce moment l'impression que on pouvait éventuellement avoir une compréhension relativement claire d'une situation. Mais généralement, ces vidéos-là ont été prises par des téléphones, donc à l'extérieur,
oui.
Et on voit à la fois le policier et le citoyen, alors que la caméra elle-même, ce qu'elle filme essentiellement, c'est le citoyen. Évidemment, il y a le son, il y a l'interaction. On le voit quand même d'une certaine façon. Quant aux policiers, je pense qu'il y avait une grande réticence. Puis finalement, sur la période qu'on a étudiée, nous, il y avait un plus grand appui à l'idée des caméras, alors que c'était plus discuté antérieurement, là, pour toutes sortes de raisons, mais notamment parce que les policiers trouvaient que c'était un peu intrusif sur leur vie personnelle.
Et même donc, pas professionnel, nécessairement.
La question, c'est de savoir quand on filme. Hein, et là, on tombe tranquillement dans toutes les questions qui se posent lorsqu'on utilise des caméras.
Ouais.
Est-ce qu'on les utilise uniquement à un certain moment ou dans certaines circonstances? Ou est-ce que ça tourne tout le temps? Par la suite, évidemment, qu'est-ce qu'on fait de ces captations-là, etc. Mais on voit que la question, a priori, est simple, mais quand on commence à déplier la question, on se rend compte qu'il y a toutes sortes de déclinaisons.
Ce qui est intéressant, avant avant même de donner les chiffres, là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une évolution. Je vais commencer avec la population, okay, parce qu'il y a aussi une évolution auprès des policiers. Mais auprès de la population, ça commençait par un certain soutien. Ce qu'on a trouvé avec les sondages, parce qu'on a fait des sondages auprès de la population, à la fois des régions où il y avait des caméras portatives pendant un certain temps, puis pour le reste du Québec, c'était un support autour de 90 et 100.
Ah oui, quand même, OK.
C'était très, très élevé. Ouais. Donc, il y a une certaine évolution, il y a aussi une certaine méconnaissance. On ne sait pas trop pourquoi on est d'accord, mais on est d'accord.
Ouais, ouais.
Puis ce que Pierre évoquait, l'idée de « OK, ben on va vous filmer vous et non pas le policier ». Donc là, à partir du moment où les gens comprennent ça, là, tout d'un coup, le soutien diminue.
Ouais.
À partir du moment où les gens comprennent que c'est pas gratuit, que ça va avoir un impact sur autre chose, là, tout d'un coup, le soutien diminue.
Ouais.
Ce qui fait que, par exemple, quand on posait la question « Êtes-vous d'accord avec les caméras? » Si on augmente vos taxes ou si on diminue certains services, là, on tombait à 50% d'appui. Après ça, du côté des policiers, il y a aussi eu une évolution. Ce qui est intéressant pendant un bout de temps, c'est que les syndicats étaient contre parce que c'était présenté, ou en tout cas, c'était perçu comme étant une façon de surveiller de plus les policiers, qui sont déjà, soit dit en passant, très surveillés.
Oui.
Là, c'est très encadré. À un moment donné, il y a eu un point de bascule où là, les policiers le voyaient plutôt comme un moyen de défense. Donc, voici ce qu'on a fait pendant l'intervention. À vous de juger, est-ce que c'était correct ou non? On a eu une situation où il y a eu une fusillade, malheureusement, pendant le projet pilote. Puis la fusillade a été filmée. Puis l'enregistrement a été très utile aux enquêteurs du BEI, le Bureau des enquêtes indépendantes. Ça a été super utile parce que eux, il y avait une enquête à faire. Ils devaient savoir, bon, mais il y avait combien de policiers, les véhicules étaient où, qu'est-ce qui s'est passé. Puis l'enregistrement disait tout ça. Donc, il y avait toute la chronologie. Il disait, ben tel véhicule était à tel endroit, tel policier a fait telle chose. Dans ce cas-ci, le citoyen tenait deux haches dans sa main, il en a lancé une. Bon, ben, il a lancé celle de la main gauche ou de la main droite? Ben là, c'était sur l'enregistrement, donc on se pose pas la question. Ça a accéléré vraiment beaucoup le processus d'enquête. Puis là, on parle d'une économie de temps de plusieurs semaines, voire des mois, là. Au lieu de le voir comme une façon, un moyen de surveillance, OK, ben voici une façon de raconter l'histoire, de soutenir l'histoire. Puis à partir de là, ben le soutien des policiers est devenu beaucoup plus élevé qu'il était.
C'est que on parlait tout à l'heure de manipulation des captations, par exemple.
Ouais.
Dans le cas d'une captation par caméra portable, ben c'est justement l'avantage, elle ne peut pas être manipulée, en fait, et conséquemment, elle est plus sûre du point de vue de la démonstration, là. S'il s'agit de s'assurer de la valeur de la captation, puis de l'absence de manipulation, c'est plus sûr la caméra que n'importe quelle autre captation qui aurait été prise par l'extérieur, par quelqu'un avec un téléphone qui peut être tronqué, de fait, qui peut couper. Bon.
Là, présentement, au Québec, est-ce que les caméras portatives sont utilisées dans des corps policiers?
La réponse courte, c'est non.
Okay.
La réponse un peu plus longue, c'est qu'il y a une vingtaine de policiers qui en ont.
Ah oui, OK.
Puis c'est ceux au service de police du Nunavik.
Ouais.
Donc, ils sont, disons, une quinzaine.
Ouais.
Mais en gros, il n'y en a pas d'autres.
OK.
Donc, si on calcule...
Est-ce que c'est en étude ou pour l'instant, tout ça est en dormance?
Non, c'est en étude, mais ça coûte extrêmement cher. Ça fonctionne comme un abonnement. Donc, tu achètes la caméra elle-même, ça coûte, disons, on va faire un chiffron, 1 000 $ par caméra, mais après, c'est un abonnement. Donc, le stockage, c'est ça qui coûte extrêmement cher. C'est parce que les enregistrements sont compris comme étant un nouveau type de preuve.
Ouais.
Donc, il faut les conserver pendant... Au SPVM, je l'ai retenu, celui-là, c'était 3 ans, 3 mois, 3 semaines, 3 jours.
OK.
Donc, la règle, c'était on conserve tous les enregistrements pendant cette durée-là. C'est ça qui coûte cher. À la limite, ça, il y a des solutions technologiques pour ça, mais le caviardage, c'est, si, par exemple, on filme, on est juste nous deux dans une pièce, ça va assez bien.
Oui.
Mais disons qu'on se filme en plein milieu du centre-ville.
Ouais.
Là, il y a 100 personnes autour qui n'ont rien à voir avec l'enregistrement, qui vont probablement vouloir être caviarder,
ben oui.
Ça coûte vraiment cher. Puis c'est pas comme une photo. On bouge sur
un enregistrement vidéo. Ouais, c'est ça. Est-ce que le système judiciaire est rendu à la même place technologiquement?
L'entrée du numérique dans les tribunaux, c'est quelque chose qui tarde. Il y a eu plusieurs tentatives.
Ouais.
Ça fait plus qu'une quinzaine d'années qu'on tente différents programmes qui visaient à construire les conditions de cette numérisation-là de l'activité de justice. Ont été développés. On est à la 3e génération de ces programmes-là. Et puis, les tribunaux sont toujours pas, équipés sur le plan numérique.
Ouais.
on s'entend que le système de justice n'est pas du tout à jour là, sur le plan du numérique.
Pour ajouter à ça, il y a le côté technique. Là, moi, je me souviens, ça fait pas si longtemps que j'étais allé dans une cour municipale que je ne nommerai pas. Et je me souviens très bien d'avoir vu, d'avoir vu une télé et un DVD sur un chariot à roulettes.
Oui, c'est ça.
Il faut comprendre aussi qu'on est très loin des clips de 15 secondes. Donc là, tu sais, par exemple, pendant la recherche, on a visionné une amenée au sol. Là. C'est un truc policier qui est essentiellement, le nom le dit, là, d'amener la personne au sol. Ça durait pas 15 secondes, c'était 22 minutes.
C'est ça.
Puis les avocats, ils vont consulter l'entièreté de la preuve. Donc là, c'est pas, OK, je regarde un enregistrement de 15 secondes, puis c'est ça que je veux présenter en cours. Je regarde un enregistrement de 22 minutes. Ouais. Je le regarde plusieurs fois parce que je suis pas certain de ce qui s'est passé. Ouais. L'amener au sol, il était 6. On calcule comme on veut, c'est 6 fois 22 minutes. Ouais. Là. Puis ils ont pas dit tous la même chose, puis ils ont pas fait tous la même chose.
Ben, Rémi Boivin, vous ouvrez une porte. La relation des policiers avec leurs propres images.
Ben, il y a au moins trois volets à cette question-là. Le premier volet, c'est un volet pédagogique. Donc, c'est sûr que ça peut être intéressant de voir une intervention filmée. Puis, à ce moment-là, tu aurais dû agir comme ça ou tu n'aurais pas dû dire ça ou tu aurais dû dire ça. Le deuxième volet, qui est probablement plus important, c'est la diffusion. C'est qui a accès à ça? Qu'est-ce que ça va impliquer d'avoir des images de moi? T'sais, moi qui travaille puis moi qui est dans ma vie personnelle, c'est pas la même chose. Donc là, comment ça va être diffusé? Au Québec, c'est en gros, là, pendant les projets pilotes, c'était pas diffusé.
Ouais.
Donc, ça a le mérite d'être simple. Mais il y a des exemples. Vous
voulez dire que c'était pas diffusé, c'est-à-dire qu'à part vous...
Ah, puis même moi, là, j'ai clairement pas tout vu. Là.
OK.
Il y a des exemples aux États-Unis, puis c'est probablement ça qui fait le plus peur aux policiers. Là. Des chaînes YouTube où les images sont téléversées en temps réel. Là.
Parce que dans le fond, si vous regardez, on marche sur la rue, il y a des caméras partout. Là.
Oui.
OK, mais la question, ça pose pas de problème dans la mesure où c'est pas diffusé. C'est quand qu'on commence à diffuser. Oui, c'est là que la question se pose.
Ouais.
Est-ce qu'on n'est pas en train de compromettre le droit à la personnalité, le droit à l'image de la personne dont on diffuse l'image? Et donc, que ce serait pas une chose envisageable, je crois, dans notre contexte à nous.
OK.
Le troisième aspect, c'est à quel moment? Donc, à quel moment les policiers peuvent visionner ça? Donc là, c'est la question de est-ce que l'enregistrement vient remplacer le rapport écrit du policier? Il y a une espèce de tradition très ancrée dans le droit là, qui est le policier, suite à une intervention, rédige un rapport écrit pour rendre compte de qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment, etc.
Ouais.
Mais là, il y a la question de, OK, on a un enregistrement qui nous montre la même intervention. Est-ce que ça vient compétitionner le rapport écrit ou au contraire, on veut que le rapport écrit fasse état plus des perceptions de ce que le policier a vécu.
Ouais.
Donc là, la question, c'est est-ce qu'on lui permet de visionner les images avant d'écrire son rapport, après?
Ah oui, OK. C'est par rapport aux citoyens. Est-ce que le fait d'être filmé, les gens vont moins avoir tendance à vouloir se plaindre du travail des policiers?
Le port de caméra, généralement, dans la majorité des études, est associé à une diminution des plaintes. On sait pas trop pourquoi.
OK.
Mais on sait qu'il y a une diminution.
OK. Il y a rien à fouiller de ce côté-là.
Clairement. C'est mon message, c'est toujours ça. Il faut s'enlever de la tête que les caméras portatives, c'est un miracle.
Ouais.
Ça a tout changé.
Ouais.
En gros, on le sait pas. Donc, il y a certaines études qui ont montré, par exemple, une augmentation de la force, une baisse de la force. On sait pas trop où ça s'en va. Donc, l'état de la recherche. Puis, tiens, à l'université, on n'est pas les plus rapides. faut se rappeler que la technologie, même si on remonte à 2005, ça fait même pas 20 ans.
Non, tout à fait.
Donc, là, l'état de la recherche n'est pas exactement où on voudrait qu'elle soit en ce moment.
Est-ce que c'est relativement nouveau, cette collaboration des corps policiers avec la recherche universitaire?
Il y a des milieux plus difficiles à étudier. Là. Comme chercheur, on sait, par exemple, étudier la magistrature, c'est un peu compliqué à cause du devoir de réserve. Les juges peuvent pas nécessairement s'exprimer sur tout. Et puis, les corps policiers, en fait, sont un peu dans cette situation-là, mais je dirais qu'il y a une tradition, je dirais, interne d'auto-évaluation là, qui fait qu'on se sent moins... on sent moins l'utilité et puis même on voit une certaine menace dans le fait qu'on est susceptible d'être étudié ou que ce qu'on fait pour être étudié de l'extérieur. Mais on doit considérer que la recherche qu'on a pu mener sur cette question des caméras portables, ça, c'était quelque chose de pas si courant.
Ça fait déjà 40 ans qu'il y a des chercheurs universitaires qui se mettent le nez, même plus que ça, qui se mettent le nez dans les choses policières.
Ouais.
Faut comprendre qu'il faut focusser sur l'utilité Donc, à partir du moment où le milieu policier voit une certaine utilité à ce que des chercheurs cherchent, ben là, ça marche.
Ils sont plus ouverts.
L'autre chose que je voulais dire, c'est que on n'est pas sur le même temps. Donc, j'aime beaucoup dire qu'à l'université, le temps, c'est relatif.
Oui.
Dans la police, généralement, si ça vient pas, les résultats viennent pas dans la prochaine semaine, ça agace.
Est-ce qu'il y a des endroits où la caméra a été implantée et finalement, après quelques années, on a décidé de reculer?
Il y a une espèce de balai aller-retour. Ouais. Hein? Par exemple, à Edmonton, ils ont implanté, après, de mémoire, 6 mois, les coûts étaient vraiment trop élevés. Le conseil de ville a voté contre. Là, ils l'ont ramené. Est-ce qu'ils vont l'enlever? La question des coûts est super importante. Les caméras, c'est un investissement à long terme, ce qui n'est pas exactement cohérent avec un mandat de 4 ans niveau politique.
Tout à fait.
Oui, d'ailleurs, il y a eu une fluctuation du point de vue de la volonté politique de les implanter, les caméras. Il y a eu un moment donné où la ministre était assez avancée sur l'idée qu'il fallait l'envisager absolument. Et puis, depuis, on entend moins parler, mais c'est sans doute lié à cette question des coûts.
Ouais.
Dans les autres questions qui se posent, bien, il y a toute la question de l'usage qui en est fait. Là. Par exemple, au plan judiciaire, jusqu'à quel point est-ce que c'est une preuve recevable? La grosse difficulté à la Cour, c'est que le juge peut toujours se dire « Oui, mais j'ai bien vu ce qui s'est passé, mais qu'est-ce qui s'est passé avant la captation commence? » Peut-être ce qui est passé avant explique ce qui va se passer après. Et ça, déjà, ça diminuerait, je dirais, la force probante d'une partie de ces captations-là. Et peut-être qu'en fait, sur le plan judiciaire, il n'est pas certain que ces captations changeraient grand-chose dans l'administration de la preuve telle qu'elle est faite là, actuellement. Là. C'est-à-dire très largement sur la base de pièces matérielles ou sur la base de témoignages. Puis bon, finalement, évidemment, il y a toute la question de l'encadrement. Rémi Bouavant l'a parlé. Pour une bonne partie de l'activité policière, c'est des choses qui restent, je pense, plus ou moins opaques pour la population, mais il y a des protocoles pour à peu près tout.
Oui.
Puis à partir du moment où on inclut et on ajoute à tout l'équipement policier, quand même un équipement assez lourd, là, si vous regardez un policier, vous ajoutez la caméra, et pour ça aussi, il va y avoir un protocole, comme il y en a un pour le taser, comme il y en a pour l'arme, comme il y en a pour beaucoup de choses. Et donc, pour eux, évidemment, ça ajoute une normativité aux normes qui sont déjà là, là. Un nouvel ensemble de normes. Ils sont habitués, là, ils savent qu'il faut rentrer l'action à l'intérieur, leur activité à l'intérieur toujours d'un cadre particulier, qui est le cadre de la loi. Mais ce serait également le cas pour la caméra. Donc, toutes ces questions, qui actionne pas, dans quelles conditions, pour toutes les infractions, pour certaines d'entre elles, toutes ces questions-là doivent être décidées avant qu'on les implante réellement.
Je termine avec cette question-là. Est-ce qu'en fait, c'est seulement les coûts qui freinent l'implantation? Est-ce que vous êtes en mesure, avec vos travaux, de...
Là, je vais bifurquer la réponse un petit peu.
Oui.
Donc... Il y a eu une certaine évolution sur les raisons de porter des caméras.
Ouais.
Donc, la première raison, c'était modifier le comportement. Donc, c'était l'effet dissuasif. On veut que, par le simple fait de porter une caméra, les gens agissent différemment.
Ouais.
Donc, ça, c'était la première version. Ailleurs qu'au Québec, il y en a qui ont adhéré. Au Québec, non.
Ouais.
Donc, on pourrait dire que c'était à peu près le projet pilote du SPVM.
Ouais.
Le deuxième mouvement, c'est la transparence. Donc, là, la caméra était présentée comme un outil de transparence ou de reddition de compte de la population ou de la police envers la population. Au Québec, ça n'a pas passé non plus, pour plein de raisons.
Ouais, ouais.
Puis la troisième, c'est l'utilisation de la caméra comme générateur de preuves. Donc ça, il y a un point d'interrogation parce que c'est relativement nouveau qu'il y a des enregistrements de caméras qui arrivent devant la cour.
Ouais.
Donc là... La boule de cristal, c'est dans 10 ans, il va en avoir plus.
Ouais.
Qu'est-ce qui va être décidé? Est-ce que ça va être perçu comme étant un outil tellement utile pour faciliter le processus judiciaire qu'on va aller de l'avant ou pas? Donc ça, c'est le bout que je ne sais pas. Puis moi, j'aime beaucoup dire qu'au final, c'est une décision politique. Est-ce que les caméras vont être adoptées d'ici 10 ans ou non? Ma réponse, ce serait ça va dépendre du gouvernement.
OK.
Pas tellement des chercheurs.
OK, ça marche. Ben, Rémi Boivin, Piano, merci. C'est un sujet... qui revient périodiquement dans l'actualité, puis je suis content qu'on a un peu plongé dans qu'est-ce que ça veut dire exactement, puis comprendre que c'est un sujet plus complexe que ça peut paraître quand on va passer une petite manchette dans les médias. Merci.
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 Alors, Maxime, la prise. Bon, là, on va régler quelque chose.
Oui, on va régler quelque chose qui est quelque chose qu'on me demande constamment dans les soirées ou chez les amis. Pourquoi étudier le Moyen Âge? Vous savez, moi, je suis médiéviste de formation. Je suis un doctorat en histoire médiévale à l'Université de Montréal.
Ouais.
Puis, en juin 2021, la ministre de l'Enseignement supérieur de l'époque, Danielle McCann, annonçait que les séances portant sur l'Antiquité et le Moyen Âge seraient partiellement préservées dans le nouveau cours d'histoire obligatoire du programme de sciences humaines au Cégep, parce que l'annonce de leur retrait précédent avait créé évidemment un tollé auprès d'une partie de la communauté historienne et de certains intellectuels. C'est pour que je me retrouve d'accord avec Lucien Bouchard. C'est assez rare dans la vie que je me retrouve d'accord avec une lettre publiée par Lucien Bouchard qui est intervenu sur la question, mais pas de façon unanime. Beaucoup d'enseignants, beaucoup de collègues, même des historiens voyaient d'un bon œil le retrait de l'enseignement de l'Antiquité et du Moyen Âge. Parce que il fallait enseigner des choses plus utiles pour les jeunes d'aujourd'hui.
Ah oui.
Donc c'était plus seulement à ce mononcle caquiste pendant la veillée de Noël qu'il fallait expliquer pourquoi c'est intéressant d'étudier l'histoire ancienne et le Moyen Âge. Maintenant c'était à des collègues qu'il fallait convaincre.
Ah ouais.
Ce qui était dur sur le moral, soit dit en passant.
Ça devait pas être le fun aux réunions de département.
Non, effectivement. Mais donc je voulais donc poser une question aujourd'hui. À quoi ça peut bien servir d'étudier l'Antiquité et le Moyen Âge au Québec au 21e siècle?
Il y avait des gens au Moyen Âge au Québec?
Oui.
Mais ils sont pas inclus dans le grand récit.
Exactement,
historique.
Exactement. Ils font pas partie du récit national.
Voilà.
Puis bon, étant médiéviste de formation, je vais surtout me concentrer sur le Moyen Âge, un petit peu moins sur l'Antiquité. Mais en réalité, partout en Occident, l'étude des périodes plus anciennes connaît une délégitimation croissante depuis plusieurs décennies, et pour plusieurs historiens et historiennes, ça s'explique par un rapport qu'on pourrait qualifier de présentiste à l'histoire.
Ah ouais,
c'est l'idée que la connaissance historique possède comme pas de valeur intrinsèque. Elle doit servir le présent. Elle doit immédiatement éclairer le présent. Par exemple, pour les nationalistes, elle doit servir à forger le récit national, une identité commune. Pour ceux qui font les programmes d'enseignement, elle constitue une formation un peu à la citoyenneté, si je puis dire. Elle doit servir à expliquer l'origine immédiate du « nous ». Alors que pour, mettons, les mouvements plus progressistes, l'étude de l'histoire doit permettre d'éclairer les luttes contemporaines.
Oui.
Mais dans tous ces cas, le Moyen Âge apparaît comme d'un intérêt limité.
Trop lointain.
Trop lointain, trop éloigné culturellement et temporellement, trop intangible pour vraiment être intéressant.
Les gens mourraient à 30 ans.
Ce qui est pas vrai, mais pas si on considère pas la mortalité infantile. Mais ça, c'est un autre débat. Donc, on s'intéresse donc à ce qui nous semble plus proche, plus familier, ce qui, c'est l'histoire intéressante, et je mets des guillemets là-dessus.
Mais Maxime Laprise, est-ce qu'en France, vous êtes délégitimé un peu partout? Est-ce qu'en France, par exemple,
en France,
il y a ces débats-là aussi?
Oui, absolument. Ça fait encore partie du récit national en France.
Ça, ouais.
Alors qu'au Québec, notre récit national commence, mettons, avec la Nouvelle-France.
Oui.
Tu sais, l'histoire intéressante commence en gros au Québec au 18e siècle. Je mets beaucoup de guillemets là-dessus. Puis même là, la plupart du temps, c'est histoire politique du 21e siècle.
Ouais.
Puis on le voit même dans les émissions d'histoire au Québec qui remontent rarement avant le 19e siècle. Je vais vous apporter un peu deux grandes solutions à ce problème. S'étendant donc de version canonique du 5e au 15e siècle, mais bon, parfois jusqu'au 18e siècle, comme je le disais, selon les auteurs, il est vrai que le Moyen-Âge est éloigné de nous culturellement et temporellement, mais il faut pas oublier que notre société en est le produit. Notre société a fait sa gestation dans ce qu'on appelle le Moyen Âge. On peut pas envisager, par exemple, l'État moderne et le capitalisme sans réfléchir aux diverses crises sociales, religieuses, économiques, politiques qui frappent le dernier tiers du Moyen Âge et qui se combinent, par exemple, avec une crise climatique, des famines, des épidémies, déclin des institutions féodales, l'explosion du commerce.
Là, vous me dites que au Moyen Âge, il y avait des gens qui disaient que les jeunes allaient détruire le Moyen Âge.
En fait, c'est assez universel. Le péril jeune, comme on dit, c'est pas mal depuis l'Antiquité. Les jeunes sont toujours paresseux, ils ne veulent pas travailler.
Non.
Ils veulent
tout détruire.
Ils respectent pas les institutions. Ça, c'est pas mal universel. Donc, pour le meilleur ou pour le pire, on ne peut comprendre notre rapport au corps, à la sexualité, au temps, à la religion, au genre, à la connaissance, sans considérer la pensée médiévale qui a été fondatrice dans la construction de notre propre rapport au monde.
On veut des exemples.
Ben, le rapport chrétien au corps, ouais, d'une mise en tension entre le charnel et le spirituel, c'est un profond héritage de la pensée d'Augustin, mais de la pensée chrétienne du Moyen-Âge, qui va influencer aussi les penseurs des Lumières, ouais, et qui reste jusqu'à nos jours, mais comme c'est pas des trucs concrets.
Non,
je comprends. C'est des trucs qui se sont profondément inscrits dans notre culture.
C'est un continuum.
C'est un continuum. Donc, en fait, je crois qu'on perçoit trop peu l'influence profonde de la pensée chrétienne dans notre rapport, ouais, au monde, ouais, et notamment parce qu'elle a été construite au Moyen-Âge. Ouais. Mais tout ça, seul un grand pas de recul permet de le constater. On peut pas penser l'antisémitisme sans réfléchir au pogrom du 12e siècle. On peut pas réfléchir l'impérialisme sans penser aux croisades. Ouais. Tout ça, c'est la construction de ce qu'on conçoit aujourd'hui comme l'Occident. Sa gestation se fait dans le Moyen-Âge.
Il y a plein de mots, de termes qu'on utilise qui sont des phénomènes du Moyen-Âge. Je parlais des croisades. C'est un terme qu'on utilise encore pour dénoncer un groupe de personnes qui voudraient aller trop loin.
Oui, qui est largement mobilisé, notamment la thématique de croisade, oui, est encore largement mobilisée par les groupes d'extrême droite, oui, qui vont pas hésiter à sortir des croix des Templiers, des trucs comme ça. Donc, l'un des rôles du médiéviste, c'est aussi de combattre ces réappropriations actuelles du passé, notamment dans le cas du Moyen-Âge, qui est souvent par l'extrême droite. On ne peut pas comprendre la construction de la Nouvelle-France sans prendre en considération que les premiers arrivants étaient des hommes et des femmes du Moyen-Âge, que leur mentalité, que leur construction intellectuelle était celle de gens du Moyen-Âge, qui sont venus cultiver la terre, qui sont venus construire des seigneuries,
ouais,
qui ce n'était pas féodal à proprement parler parce que c'est pas les mêmes institutions, mais c'était un produit, ouais, 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 de la société médiévale.
Qu'on l'a gardé longtemps, le régime seigneurial était aboli.
Oui, j'avais un prof qui disait souvent la blague que le Moyen-Âge se terminait au Québec en 1950.
Belle boutade.
Nos universités viennent du Moyen-Âge, notre droit vient du Moyen-Âge, nous sommes médiévaux. Mais lorsqu'on se tient à un passé récent, familier, on a la face dedans un peu. On est des contemporains qui pensons aux contemporains, alors que l'étude du Moyen-Âge permet de prendre un recul et réfléchir sur la construction profonde de notre monde dans la longue durée, tu sais, de faire sortir des structures fondamentales, les contradictions. Ça permet un peu une construction beaucoup plus fine, ouais, du nous que se regarder dans l'immédiat.
Ouais, ouais, ouais.
Et je pense que certains historiens et historiennes qui travaillent sur des périodes plus contemporaines, quand ils expriment parfois du mépris pour les médiévistes,
ah oui,
qui perçoivent un peu ça comme une...
Il y a des petites guerres de chapelle?
Ben c'est souvent perçu comme une patente de vieux blancs réac, alors que les études médiévales ont beaucoup changé depuis le 19e siècle. Mais il y a encore...
Vous en avez la preuve?
Voilà. Mais il y a encore cette perception-là, ah ouais, que okay, c'est un loisir de vieux cathos. Mais il y a une autre chose sur laquelle je vais insister, c'est la question de l'altérité. C'est-à-dire que oui, notre monde est né du Moyen-Âge, mais le Moyen-Âge est aussi radicalement différent du nôtre. Déjà, ça pose une question fondamentale sur l'histoire, c'est à quoi ça sert à faire de l'histoire? À quoi bon étudier quelque chose qui est différent de nous? Est-ce qu'on poserait la question à un anthropologue qui travaillerait sur une population éloignée? Mais j'avance que l'histoire a aussi pour fonction de nous extraire du présent, de nous en émanciper de l'immédiat. Il s'agit de considérer le Moyen-Âge un peu comme le ferait un anthropologue qui cherche à comprendre ce qui apparaît le plus étrange dans le sens de différent de lui, le plus opposé à ce qu'il connaît. Le Moyen-Âge devient alors une sorte de laboratoire interdisciplinaire qui permet finalement un des accomplissements des sciences historiques et des sciences humaines, qui est de comprendre le fonctionnement des sociétés humaines. La médiévistique devient une sorte de science fondamentale des sciences humaines.
Ben là, on sent le médiévisme.
Ce qui permet de s'extraire du présent immédiat et de faire de la conceptualisation, de réfléchir sur une société qu'on peut un peu étudier dans un laboratoire, sans être dedans. Puis je pense que c'est pas un hasard si tant de grands penseurs, de Marx à Foucault, se sont intéressés au Moyen-Âge, parce que ça permettait de faire ce jeu de comparaison-là.
Ah ouais. Est-ce que c'est une période, de par ses caractéristiques, qui se prête mieux à ça? Est-ce qu'on peut faire la même chose avec l'Antiquité? Est-ce qu'on peut faire la même chose avec...
Ben, c'est une question intéressante parce que le Moyen-Âge a la particularité d'être la seule période dont on connaît le début et la fin. Ben, l'Antiquité plonge dans la préhistoire, donc c'est flou.
Ouais.
L'époque contemporaine, ben, on annonce sa fin, mais on peut pas l'analyser.
Et la Renaissance, j'imagine, c'est trop près de nous.
Ben, c'est un débat à savoir est-ce que la Renaissance fait partie du contemporain ou du Moyen-Âge. C'est ça, c'était un autre débat. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'on peut voir le début et la fin d'une civilisation. Ça aide à pouvoir l'inscrire dans un sorte de laboratoire et de l'inscrire du début. Ça fait que ce type de travail-là permet de réfléchir à des enjeux larges sans nécessairement chercher à immédiatement expliquer le présent. Tu sais, je vais pas répondre à la crise climatique. Mais je peux parler du rapport entre les humains et, et la nature dans un contexte complètement différent. Et qu'est-ce que ça peut dire sur notre rapport à la nature? Je vous expliquerai pas la construction de l'État québécois, mais je peux vous expliquer comment les Carolingiens ont construit une administration impériale efficace, encore là, dans un monde complètement différent. Et qu'est-ce que ça dit sur les rapports des êtres humains au rapport de pouvoir, à la construction des institutions? Je peux pas vous parler du convoi de la liberté. Mais je peux vous parler de tous ces mouvements religieux apocalyptiques et contestataires qui commencent à pulluler alors que le système médiéval entre en crise au cours des 13e et 14e siècles, qui formaient des convois d'ailleurs. On appelait ça des processions à l'époque, mais c'est une sorte de convoi.
La procession de la liberté.
Oui, la procession de la liberté, parfaitement. Mais paradoxalement, cette rupture avec l'exigence d'expliquer généalogiquement le présent, puis d'expliquer un peu comment se sont construites nos institutions, pardon, peut s'avérer instructive par l'intermédiaire justement du jeu de comparaison. Ouais. Par exemple, la pensée chrétienne fonctionne comme l'idéologie dominante du monde médiéval. T'sais, elle intervient dans à peu près toutes les interactions humaines, les rapports de production, les mentalités des individus. La pensée chrétienne est centrale. Mais travailler sur cette question-là permet de réfléchir au fonctionnement des idéologies dans toutes les sociétés humaines, mais aussi dans notre propre rapport aux idéologies. Parce que là, on rentre au niveau structural, si je puis dire. C'est comment fonctionne une idéologie? T'sais, par exemple, bon, les marxistes vont dire que c'est le capitalisme la pensée capitaliste qui a remplacé le christianisme. Ben là, il y a quelque chose de super intéressant à fouiller sur de quelle façon le capitalisme fonctionne dans notre rapport au monde. Par exemple, l'idée de marchandisation de tout. Il y a quelque chose à fouiller. S'extraire du présent et regarder la période dont nous sommes à la fois les héritiers et les étrangers permet, et je pense que c'est absolument fondamentalement en histoire, et c'est là le caractère, je pense, radical de l'histoire, c'est que ce qui est maintenant n'a pas toujours été. La médiévistique, quand on la pratique correctement, est fondamentalement critique et déconstructiviste parce qu'elle fait apparaître le caractère construit, arbitraire, temporaire de nos institutions.
Étudier le Moyen-Âge nous apporte une modestie collective.
Absolument, parce que memento mori, tout le monde meurt, mais les sociétés, les constructions aussi. Mais non seulement, c'est que toute institution se donne l'impression que éternelle. On se donne l'impression que le capitalisme, c'est une force éternelle qui a toujours été là et c'est un peu l'aboutissement de l'humanité. Et c'est vers quoi l'humanité a toujours tendu.
On ne pourra pas aller au-delà de ça.
Mais en expliquant comment l'État moderne et le capitalisme s'est graduellement construit sur plusieurs siècles, on les désacralise. On montre qu'il ne s'agit pas d'un aboutissement naturel, mais que ça a été construit par des humains vivants, influencés par des circonstances historiques.
La contingence.
La contingence, c'est un bon vieux slogan d'historien et d'historienne, c'est « always historicize ». Arrêter d'étudier ou d'enseigner le Moyen-Âge, pour moi, constitue une réduction de l'espace mental, une réduction de la possibilité d'envisager d'autres mondes, d'autres univers, d'autres mentalités. Puis pour synthétiser tout ça, je vais terminer avec une citation du grand historien Jacques Le Goff, qui est un peu qu'on appelait à sa mort le pape du Moyen-Âge, qui me semble un peu résumer mon propos. « Le Moyen-Âge ne m'a retenu que parce qu'il avait le pouvoir quasi magique de me dépayser, de m'arracher aux troubles et aux médiocrités du présent et en même temps de me le rendre plus brûlant et plus clair. »
Merci, Maxime Laprise.
Merci, M. Savard.
Là, on est rendu au numéro 192.
Absolument.
Nicolas Giguère.
Oui.
J'ai l'impression qu'on a voulu peut-être être moins niché dans ce numéro-là que d'habitude.
C'est vrai que si on compare à des numéros précédents, je pense à Anne-Hélène Clich, j'en avais parlé ici, c'est sûr. Puis en même temps, c'est ça aussi l'être québécois. C'est parler d'auteurs, d'autrices et de sujets nichés et aussi aller vers du grand public. Oui. Et là, puis la chanson, c'est loin d'être un art mineur, c'est un art en soi d'ailleurs.
Contrairement à ce que Gainsbourg a dit à l'époque.
Absolument, puis si on pense à la correspondance entre Gaël et Jonathan Arnois, l'art d'écrire des chansons, c'est difficile, justement, c'est exigeant. Et c'est un dossier, je pense, qu'il prouve.
Alors, le dossier est dirigé par Tristan Malavoie. Parlez-nous un peu de l'élaboration de ce numéro-là.
Ben, en fait, c'est vraiment Melika Abdelmoumen, la rédactrice en chef, qui a approché Tristan Malavoie. On le connaît comme auteur, oui. On le connaît aussi comme auteur, compositeur, interprète.
En fait, qui a les deux chapeaux.
Qui a les deux chapeaux.
Littéraire et chansonnier.
Absolument. Donc là, on s'est dit c'est la meilleure personne, parce que ce qu'on voulait aussi, c'est un numéro au croisement chanson et littérature.
Oui, voilà.
Et ça donne aussi, en effet, un dossier où on a, par exemple, Michel-Olivier Gaz qui arrive avec vraiment sa prose oralisante, oui. Des textes, des entrées, un abécédaire vraiment tordant.
Ouais, vraiment, vraiment. Et il a déjà écrit, lui, sur la musique, en fait, sur sa collection de vinyles. Il avait publié un essai qui avait vraiment été bien reçu.
Histoire analogue. D'ailleurs, je pense qu'il y a un tome 2 en préparation. Des textes aussi plus courts de Chloé Sainte-Marie. Oui. Puis un qui m'a beaucoup plu, c'est celui de Marie-Hélène Poitras.
Oui.
Sur la chanson Ailleurs de Marjo, donc des chansons,
en fait, des chansons qui ont marqué ces auteurs-là. Michel Jean aussi.
Absolument.
Un texte sur une chanson qui l'a marqué.
Et on a aussi des textes, en effet, plus dense, je pense, celui qui clôt le dossier, Élise Jeté, hein, sur justement donc, la chanson au sein des communautés autochtones, donc des artistes autochtones.
C'est la première fois que la lettre québécoise se plonge comme ça?
Absolument.
Dans la chanson québécoise?
En fait, là, si on parcourt l'histoire de la revue, à ma connaissance, il y a peut-être eu déjà des textes. Là. La revue existe depuis 1976, mais un dossier consacré à la chanson au Québec, c'est la première fois.
Il y a un texte, c'est une réflexion qui circule depuis longtemps, mais j'étais content de le lire de David Bussière, entre autres, d'Alpha Rococo, sur la disparition, parce qu'on annonce depuis longtemps la disparition de l'album.
Oui.
Puisque les plateformes numériques mettent beaucoup de l'avant des singles, des chansons qui sortent comme ça, pas nécessairement attachées à un album. Et lui nous rappelle que oui, c'est vrai, puis en même temps, pas tant.
Ben absolument. Puis moi, j'étais content de lire ce discours-là. Oui. Moi, j'étais content parce que je suis quelqu'un qui consomme des albums.
Oui.
La consommation de la pièce, ça ne m'intéresse pas. Même s'il y a des albums, des fois, que je trouve moyens, puis on en...
Ça fait longtemps qu'il y en a des albums moyens. L'industrie, ça fait des décennies qu'elle nous offre des albums moyens. Mais c'est pas vrai qu'on fait plus d'albums aujourd'hui.
C'est absolument pas vrai. C'est archi faux.
On parle souvent de diversité à plein de niveaux. Mais à ce niveau-là, parce que moi, étant mélomane dans la vie, c'est ma plus grande passion, c'est la musique. Je trouve quand même que les plateformes, on les démonise beaucoup, avec raison, de leur structure de rétribution. Mais aussi, ils ont changé la façon... En fait, ils ont amener une liberté de comment on peut mettre de la musique dans les oreilles des gens qui aiment la musique. On peut faire des chansons, des singles, on peut faire des mini-albums, on peut sortir des albums de 40 chansons si on veut. Et ça n'aurait pas possible dans l'ancien modèle des compagnies de disques qui auraient dit non, 10 chansons, pas plus, des chansons de 3 minutes. Fait qu'il faut quand même le souligner. Texte intéressant entre Melika Abdelmoumen et Tristan Malavoie sur le mariage entre la chanson québécoise et la littérature qui existe depuis longtemps.
Absolument.
Avec des exemples vraiment frappants. Oui. On pense entre autres aux 12 hommes rapaillés de Gaston Miron.
Et ça, Melika et Tristan Malavoie aussi donc l'ont dit à plusieurs reprises. C'est certain. On fait, je pense, un tour d'horizon, mais c'est certain que c'est incomplet.
Ben oui.
C'est loin d'être un inventaire
exhaustif.
C'est pas le but. Donc oui, c'est partiel, c'est partial, c'est avec peut-être aussi nos goûts, nos coups de cœur. J'ai presque envie de dire, j'ai envie d'inviter d'autres revues, d'autres personnes aussi à se pencher sur la chanson d'ici elle est riche.
Oui.
Même moi, personnellement, j'avais même pensé à, par exemple, on aurait pu approcher Clémence Desrochers, bon, qui est peut-être de plus en plus rare maintenant.
Oui.
Même Luc Plamondon, ça, c'est un rêve un peu fou, là. Mais pourquoi pas?
Ouais.
Mais c'est sûr.
En fait, ce qui aurait été intéressant, dans le cas de Clémence et de Luc Plamondon, ben surtout de Luc Plamondon, parce qu'il y a vraiment une carrière foisonnante d'auteur, qui nous parle de sa relation avec la littérature.
Oui.
Et sa pratique d'auteur de chansons, ça aurait été intéressant, ça.
Ah, absolument. C'est prendre, disons, des émotions. Puis en fait, parfois, c'est des mini-histoires dans une chanson. Donc là, ça demande à être extrêmement concis.
Oui.
Chaque mot est à sa place.
C'est un art, ça.
Puis c'est un art. Puis en effet, bon, dans la chanson, on cherche aussi des sonorités, des ressemblances. Donc là, oui, il y a la rime aussi, mais ça donne certains textes qui sont, en effet, puissants aussi.
D'ailleurs, certains textes puissants, on en retrouve aussi dans la section création de ce numéro, avec Nour Simon, entre autres, un nom qui circule beaucoup et que je lisais pour la première fois.
Nour Simon, je suis très heureux de l'accueillir. En fait, c'est un artiste vraiment multidisciplinaire. Quand Yael m'a envoyé son texte, c'était fabuleux. J'ai trouvé vraiment là, que c'est un texte aussi du point de vue de la forme, très hétérogène, qui parle aussi d'enjeux très actuels, entre autres de ce qui se passe à Gaza.
Tout à fait.
Et dans ce numéro-là, ce qui est fantastique, c'est que les auteurs ne se sont pas consultés et Nour Simon et Laura Doyle Payan parlent de ce qui se passe présentement, justement, à Israël-Gaza. Donc, on a ça et je pense, entre autres, toujours dans la création, on a Véronique Grenier, l'essayiste, qui parle d'expropriation, de rénoviction. Et il y a Anne Archet.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Et même Jean-François Nadeau dans Ville littéraire aussi, il est question de ça.
Et c'est ça, il n'y a pas de concertation. Là.
Non, vraiment, c'est arrivé. Là, on s'est dit.
Anarchie qui fait une chanson anti-propriétaire. On avertit, là, c'est un trigger warning si vous êtes propriétaire. Et Ghislaine Tachereau, est-ce que c'est la première collaboration avec l'Aide québécoise?
Première collaboration avec l'Aide québécoise. C'est Millicap Delmoumen qui l'a approché, donc avec son texte Pas piqué des vents, cette espèce de. En tout cas, vous allez lire, donc, une leçon de style, hein, oxymore, un mot avec lequel il en découte. Donc, une discussion entre un professeur puis un élève un peu tatillon qui dit pourquoi? finalement, on se rend compte que le professeur, disons, pète un plomb, on pourrait dire ça comme ça, mais on retrouve son humour. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Puis c'est un auteur aussi qui est justement, on parlait tout à l'heure de la chanson, qui est un art qui est aimé du grand public, puis qui est aimé, puis on est peut-être, disons, on littéraire, gens de culture, mais on aime aussi la chanson.
Ben
c'est ça aussi l'Aide québécoise. Donc, on disait tout à l'heure, c'est parler de sujets nichés, d'auteurs, d'autrices aussi très littéraires, mais de tendre la main à des gens aussi comme Michel Jean, Ghislaine Tachereau.
Zachary Richard,
qui des fois qui sont considérés un peu suspects, là, on pourrait dire, par un certain milieu littéraire trié sur le volet, mais qui produisent une œuvre de qualité.
Tout à fait. Zachary Richard, qui a un texte intéressant aussi, une réflexion sur la francophonie nord-américaine.
Absolument.
Qui m'a évidemment qui a résonné chez moi puisque on a fait un épisode avec Pierre Lavoie sur les grandes migrations et la célébrité et le circuit culturel franco-américain. Fait que ça complétait bien. Et Zachary Richard, on parle de chansons, on parle d'autres époques. Allez réécouter les albums de Zachary Richard dans les années 70, c'est quelque chose.
Ben, c'est clairement.
Vraiment quelque chose, pour vrai. Et ça n'a pas pris de ride.
Et je peux vous annoncer aussi en primeur que Zachary Richard va entamer une collaboration en lettres québécoises.
Absolument. Mon Dieu, ça, c'est fun, ça.
Vraiment, on a été enchantés de son texte au lancement de ce numéro-là qui est à l'ESCO en mars. Il a écrit un texte spécial pour l'occasion qui est un super beau texte. Et Mélica donc l'a approché, on voulait le publier. Et donc, il va entamer une collaboration. Donc, à suivre.
Alors, on retrouve donc, il est en librairie, il est sorti, ce numéro 192. Et bien sûr, sur le site. Il se finit le site, là. On en parle à chaque fois.
On est dans les derniers mille. On est dans les derniers mille. Mais ce que je peux vous dire, c'est que sur notre, disons, ancien site, mais qui a été mis à jour. Donc, il y a les numéros récents, par exemple, sur Virginia Pessé-Mapeo-Bordelot, Anne-Hélène Clich et celui-ci sur la chanson. Et vous pouvez bien sûr les commander, vous pouvez vous abonner. Donc, le contenu a été mis à jour. Là. C'était le numéro sur Jean-Paul depuis X mois.
La couverture. Qui est un excellent numéro, ça l'a dit.
Pardon?
C'est un excellent numéro. Ouais.
C'est un excellent numéro, mais disons qu'on en a fait d'autres depuis. Dieu, ce nouveau site va arriver.
C'est long. Hein. C'est long, on a le temps. Hey, merci, Nicolas Jugard.
Ça m'a fait plaisir.
Alors voilà ce qui conclut ce 27e épisode de La Balado. Je vous l'avais dit, c'était un épisode effectivement kaléidoscopique avec plein de segments plus ou moins reliés ensemble, mais qui finissent par faire un bon épisode. Alors, je veux remercier les chercheurs Rémi Boivin et Pierre Noreau pour avoir choisi La Balado pour mobiliser des connaissances au sujet des caméras portatives et non pas corporelles, il faut le répéter. Je pense que les caméras corporelles, c'est pour la médecine, mais le terme est utilisé en Europe, entre autres, pour les caméras portatives sur les corps policiers. Mais au Québec, la convention, c'est qu'on dit caméra portative. Alors voilà, merci, merci à Maxime Laprise, autre chercheur en histoire, médiéviste, qui nous a convaincus, je pense, que étudier le Moyen Âge est encore pertinent aujourd'hui. Merci Alain Faradji, bien sûr. Je termine avec une petite mention. Je serai au Minifest. C'est annoncé, il y a eu une conférence de presse. Ce sera le seul festival d'humour à Montréal en passant cet été. Et avec Corinne Laperrière, nous offrirons un premier spectacle ensemble qui s'appelle « Le vieil homme et la mère » le 19 juin au Bistrot Sainte-Cath. La programmation complète est sur le festivalminifest.com. C'est un festival plutôt à gauche. Voilà, on va faire une demi-heure à peu près chacun et on aura des sketchs ensemble, des numéros ensemble. Alors, voilà, je prépare peut-être mon après-balado. Qui sait? Alors, ce sera le 19 juin. Au mois de mai, je serai à l'ACFAS, au congrès de l'ACFAS à Ottawa. Précisément le 14 mai à 17h, où il y aura un enregistrement d'épisodes sur l'interface entre science et pouvoir politique. C'est un programme que développe l'ACFAS. Et il y aura donc des scientifiques, des politiciens, en fait d'ex-politiciens, qui vont discuter sur comment la science peut avoir ses entrées dans les officines politiques pour que les données probantes, pour que l'approche scientifique devienne un outil pour la prise de décision. Alors voilà, ça sera le 14 mai. Je vais envoyer les détails dans l'infolette, bien sûr, la semaine prochaine. Je rappelle que l'infolette qui sort à chaque fois pour les liens liés aux épisodes, ce sont les donateurs de la balado qui la reçoivent et pas tous les membres de l'infolette. Petite nuance. Alors, si jamais vous voulez recevoir tous les liens qui complètent en fait l'écoute des épisodes, ben vous n'avez qu'à donner. Vous n'avez qu'à aller sur lefredsavard.com et participer, soutenir financièrement ce beau projet qui ne bénéficie pas de subventions pour exister. Alors, voilà, la campagne n'est toujours pas terminée et je termine pour vrai cet épisode avec. Je ne reviendrai pas longtemps là-dessus, là, sur l'espèce de mini-polémique qui secoue le monde du showbiz québécois, MC Gilles, qui perd ses contrats au 98.5. Je ne donnerai pas tous les détails. De toute façon, tous les journaux en ont parlé. C'est pas si intéressant. Sauf que ce qui m'a fait tiquer un peu, en fait, ce qui m'a rappelé un peu ce que j'ai vécu, probablement, c'est cette idée d'avoir une mauvaise réputation parce qu'on est un chialeux. Même si Gilles dit que c'est ce qu'il a perçu, qu'on le percevait comme un chialeux. Et ça, dans ce milieu-là, ce milieu docile où on aime bien que tout le monde soit bobli, souriant, puis aussitôt que vous posez trop de questions, aussitôt que vous opposez à certaines décisions qui souvent ont un impact sur votre propre travail, ben vous faites vous passez pour un chialeux. Alors, je salue MC Gilles qui est dans le club des chialeux avec moi et d'autres personnes. J'ai pas d'inquiétude, cela dit, pour lui, pour la suite des choses. Il y a quand même un humour assez consensuel qui ne dérange pas trop les fondations du temple économique de tout ce système-là. Alors, il n'y aura pas trop de difficultés à se trouver d'autres tribunes. Il y en a déjà plein d'autres de toute façon. Mais c'est ça, quand j'ai entendu dans cette peur de passer pour un chialeux, j'ai repensé à mon parcours dans ce merveilleux monde du showbiz où les égos s'entrechoquent dans une grande farandole où très peu en sortent gagnants. Et la beauté du podcast, c'est qu'on peut faire autre chose et le faire, comme dirait Roxane Bruno, à sa manière. Alors, on va terminer en musique, justement, pas avec Roxane Bruno. Cela dit, je vais vous en reparler parce que avec Ludo, on a créé donc une série balado qui s'appelle Postmortem sur la culture québécoise. En fait, un discours intergénérationnel. C'est déjà en ligne, mais j'attends d'avoir plusieurs épisodes pour qu'on ait trouvé notre air d'aller, moi et Ludo. Mais cette semaine, on est allé voir la première médiatique de la pièce royale de Jean-Philippe Barry-Guerrard au Théâtre du CEP. Et là, on va aller voir le nouveau show de Roxane Bruno. Alors, on va en parler. Pas ici, mais dans un autre segment qui sera dans l'infolette probablement dans les follettes pour tout le monde, celle-ci, pas uniquement pour les donateurs. Alors, on termine en musique. Pour tous ceux qui ont mauvaise réputation dans ce milieu et qui essayent de faire les choses autrement et qui essayent de se respecter et d'avoir des principes, offrons-nous ce grand succès de Georges Brassens, La mauvaise réputation. Bonne semaine tout le monde.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets. Ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire, le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jatte, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.